Strasbourg pilote, arts et lettres, docteur Patrick Lemoine, bonjour. Le
oui,
mardi
bonjour.
De 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h.
Docteur en neurosciences, vous avez publié une trentaine d'ouvrages. Et
avec
la santé psychique des génies, nous en avons parlé ensemble sur cette antenne.
Tout à fait.
Alors, à présent, nous allons parler de ce livre que vous venez de publier avec Boris Cyrulnik aux éditions Odile Jacob et dont le titre est « Pour une nouvelle psychiatrie, proposition ». Alors, psychanalyse, psychiatrie, folie, est-ce que vous pourriez peut-être, avant d'entamer ce livre, nous dépoussiérer un petit peu ces concepts?
Alors, bon, en français, chaque fois que vous entendez « iatrie », comme « pédiatrie », ça veut dire « c'est de la médecine ». Donc la psychiatrie, c'est la médecine du psychisme. La psychanalyse, c'est une technique particulière inventée par Sigmund Freud et qui s'attache à chercher les supposées causes inconscientes des désordres. Alors que d'autres techniques qu'on appelle des psychothérapies, comme les thérapies comportementales, par exemple, cognitives et comportementales ou l'hypnose, s'occupent pas tellement du pourquoi, mais s'occupent du comment. Comment, par exemple, je deviens phobique, pourquoi je vais me mettre à éviter la foule ou à éviter de conduire ma voiture. Donc je me fiche de savoir pourquoi, mais comment ça se met en place et quels outils je pourrais faire pour modifier mes schémas de pensée.
Et le mot folie, qu'est-ce que ça recouvre?
Alors la folie, ça c'est une sacrée question. Vous avez remarqué que je l'avais évité.
Oui.
C'est une question très culturelle. À savoir que ce qui pouvait être folie à une époque ne le sera plus. Par exemple, jusque dans les années 60-70, la psychiatrie considérait l'homosexualité comme une déviance, comme une forme de folie. Alors que de nos jours, ça ne viendrait plus à l'esprit de personne, on va dire, de civilisé. Et ainsi, il y a un certain nombre de modes de pensée qui peuvent apparaître fous. Vous voyez, par exemple, moi j'enseigne, je suis professeur associé à Pékin, et que bon, je suis de culture chrétienne, quand ils me demandent ce que c'est que la transsubstantiation, c'est-à-dire la présence réelle du Christ dans une hostie, ils me trouvent complètement fou. Comment on peut imaginer qu'il y ait des molécules christiques que même en spectrographie de masse, on ne pourra pas isoler dans une hostie. Donc, et moi je me rappelle avoir assisté aussi à une consultation en Inde, en médecine ayurvédique, et le patient disait à son médecin, vous savez, je suis un avatar de Vishnu, donc j'ai mal à la tête, et puis j'ai de la fièvre à tel moment. Donc à la fin de l'entretien, je prends le médecin à part, je lui dis, il n'a pas bien dans sa tête celui-là. Il dit, ah si, les avatars de Vishnu, ils ont effectivement ce genre de symptômes. Donc ce qui me paraissait, moi, délirant, pour lui était parfaitement normal. Mais quand même, quand on dépasse cet aspect, on va dire, culturel, de la folie, il n'en reste pas moins qu'il y a des formes de folie qui sont universelles, qui sont liées à des maladies particulières. Par exemple, la schizophrénie, hein, qui est vraiment le prototype de la folie, ce sont des personnes qui sont persécutées, qui ont des hallucinations, qui sont dissociées, éclatées, morcelées. Eh bien, on sait que, quelle que soit l'époque, quel que soit le lieu, quel que soit le milieu socio-économique, c'est en gros 1% de l'humanité. Même si dans les grandes catastrophes comme les tremblements de terre ou les exodes, eh bien ça peut monter jusqu'à 4%. Mais donc la folie, c'est le fait de délirer. Et étymologiquement, délirer, ça veut dire être à côté du sillon. Donc vous voyez que ça comprend d'une part un aspect universel, c'est-à-dire qu'il y a un sillon humain, et puis il y a un aspect culturel, parce que le sillon d'un Africain ne sera peut-être pas le même que le sillon d'un Asiatique.
Alors, docteur Patrick Lemoine, vous avez fait paraître avec Boris Cyrulnik en 2019 un livre qui n'est pas parallèlement identique, mais qui subodore le même sujet, bien évidemment. C'est « Histoire de la folie avant la psychiatrie » en 2019.
C'est vrai, c'est même un triptyque, puisque 2 ans auparavant, on avait même écrit « La folle histoire des idées folles en psychiatrie ». Donc c'est un triptyque. Là, normalement, c'est le dernier volet de ce triptyque. On essaye de faire une réflexion sur le « avant », le « pendant » et le « futur ». Et c'est vrai que ce livre qui est paru il y a 15 jours parle essentiellement de la psychiatrie dont nous rêvons. un des titres qu'on avait évoqué pour cet ouvrage. Qu'est-ce qui se passe dans la psychiatrie contemporaine, aussi bien dans le monde, mais quand même essentiellement dans notre hexagone, qui fait que ça marche si mal? Parce qu'il faut bien reconnaître qu'en France, la psychiatrie marche particulièrement mal.
Alors pour travailler ce sujet, pour une nouvelle psychiatrie proposition qui paraît chez Odile Jacob, vous vous êtes entouré des meilleurs experts, des psychiatres, mais aussi des chercheurs, une épidémiologiste, un directeur du programme de santé mentale de l'OMS, un procureur général, et puis vous, Patrick Lemoine et Boris Cyrulnik, vous avez débattu de questions incontournables. Quelles sont ces questions qui vous ont mobilisé dans ce travail ?
Alors bien entendu, ces questions sont multiples, puisque les auteurs sont multiples, mais on a essayé quand même de voir essentiellement ce qui dysfonctionnait et qu'est-ce qui pourrait être proposé pour faire que ça marche mieux. Et ce dysfonctionnement, on le voit bien, surtout depuis la crise du Covid, avec le confinement qui a fait exploser le nombre d'insomnie, de dépression et donc de consommation de ces toxiques qu'on appelle les somnifères ou les tranquillisants, ou des médicaments qui sont souvent mal utilisés, que sont les antidépresseurs. Qu'est-ce qui fait que ça dysfonctionne autant? Personnellement, moi j'ai été directeur médical d'un groupe de cliniques, ce qui fait que j'ai travaillé en Italie, j'ai travaillé en Suisse, j'ai travaillé en Allemagne, j'ai travaillé un peu en Angleterre, en Espagne, et donc je suis professeur associé après avoir été aux États-Unis et au Canada. Donc j'ai une certaine vision internationale de la psychiatrie, et il faut bien reconnaître que si on compare par exemple le fonctionnement de la psychiatrie en Suisse ou même en Allemagne, c'est pas à l'avantage de la France. La consommation des médicaments, qui est un de mes dadas, en tout cas une de mes spécialités, explose dans notre pays, alors que ce n'est pas le cas ailleurs. Vous voyez, récemment, par exemple, j'ai proposé une étude d'un antidépresseur à base de plantes, safran et rhodiol, dont j'avais pu voir dans une première étude qu'on appelle pilote, ouverte, qu'il marchait étonnamment bien, et même nettement mieux que les antidépresseurs pharmacologiques. Donc très fier, j'ai proposé à un comité d'éthique officiel une étude double aveugle versus placebo pour démontrer que mon impression clinique préliminaire était correcte. Et on m'a répondu non, c'est des plantes, donc on peut pas faire d'études contrôlées, on peut pas faire d'études scientifiques. Il me semble qu'on est absurde dans cette histoire-là, puisque si on avait suivi ce raisonnement, on n'aurait pas l'aspirine, on n'aurait pas la digitaline, et donc des millions de gens mourraient parce que ce sont des plantes, l'aspirine et la digitaline. Donc vous voyez que ça fait partie de ces absurdités, n'ayons pas peur des mots, qui jouent beaucoup. Autre exemple, on dit toujours qu'en France, on manque de psychiatres. Il est vrai que si vous cherchez, que ce soit à Paris, à Strasbourg, à Lyon ou à Marseille, et puis je ne parle même pas des déserts médicaux, à avoir un rendez-vous avec un psychiatre, c'est un parcours du combattant. Vous avez des répondeurs qui vous disent « je ne prends plus de nouveaux patients ». Même dans les publics CMP, très souvent, il faut 6 mois, voire 1 an pour avoir un rendez-vous, notamment à Paris. Ce qui est étonnant, c'est que dans notre ouvrage, une épidémiologiste qui s'appelle Viviane Coves montre qu'en France, il y a plutôt trop de psychiatres. En tout cas, il y a plus de psychiatres ailleurs. Le seul pays développé où il y a plus de psychiatres par habitant, c'est la Suisse. Mais autrement, la France est au top 2 du nombre de psychiatres par habitant. Mais le problème, et c'est elle qui le dit, c'est que les psychiatres français ne font pas de psychiatrie. Ils font pas ce pour quoi ils sont formés, et ils font surtout de la psychanalyse, de la psychothérapie, qui normalement est d'abord le travail des psychologues. Or, les pouvoirs publics disent bien, ne prescrivez pas trop de médicaments, faites plutôt des thérapies cognitives et comportementales, de l'hypnose, qui ont démontré leur efficacité, mais attention, nous ne remboursons que les médicaments, et nous ne remboursons pas les psychologues, contrairement à ce qui se passe dans les autres pays. Alors que si on se mettait à rembourser les psychologues dans leur thérapie, qui coûterait d'ailleurs moins cher que les psychiatres, on s'apercevrait qu'il y a plutôt trop de psychiatres en France, et il y en aurait énormément sur le marché. Donc tout ça fait partie de ces dysfonctionnements qui seraient, selon moi, assez simples à régler s'il y avait une volonté politique derrière, mais ça ne marche pas.
Alors, ce titre est un petit peu alarmant pour une nouvelle psychiatrie proposition. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une sorte de désaveu sur la psychiatrie actuelle et qu'il faille la retravailler, la revoir, la rénover ?
Voyez, l'autre jour, j'ai été stupéfait, donc je consultais dans mon CMP, et puis un patient me dit, mais vous êtes psychiatre, vous ? Oui, je crois. Vous êtes sûr, parce que c'est étonnant, vous m'écoutez et vous ne faites pas que de prescrire des médicaments. Et donc, moi, j'étais un peu baba d'entendre ça, puisqu'a priori, c'est pas toujours la règle que les psychiatres écoutent leurs patients. Alors que moi, j'avais la naïveté d'imaginer que c'était quand même leur mission première. Donc, je pense que ce titre un peu provocateur, je vous l'accorde, proposition, part du constat qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas et qu'on pourrait reprendre complètement le problème. Comme dit d'ailleurs, monsieur psychiatrie en France, c'est Franck Bélivier, qui est au niveau du ministère le référent de la psychiatrie, et dit bien qu'il faudrait complètement refonder la psychiatrie pour éviter l'engorgement des services. Vous voyez, il y a des endroits en France, j'ai fait une petite enquête, où 70% des postes de psychiatres ne sont pas pourvus. 70%. Donc ça aboutit à quoi ? Soit des services sans médecin, ce qui est quand même un petit peu gênant, soit des services fermés. Et donc ça aboutit à faire que les patients qui habitent dans tel département seront obligés d'être adressés dans tel autre département, ce qui n'est absolument pas du tout dans l'esprit de ce qu'on appelait le secteur psychiatrique, où normalement on est soigné près de chez soi, voire chez soi, grâce aux équipes mobiles. Je pense que des systèmes qui ne coûteraient pas cher, en fait, je dirais même que ce serait à coût constant, qui permettrait de réorganiser le travail des psychiatres, donner beaucoup plus d'importance aux psychologues, donner beaucoup plus d'importance aux infirmiers, aux aides-soignants, faire que les psychiatres acceptent de déléguer leur boulot à leurs équipes, ce serait pas mal. Vous voyez, par exemple, les ophtalmologistes, eh bien maintenant, ils sont rarement installés seuls, et ils ont des orthoptistes, ils ont des optométristes, ils ont plein de gens qui les déchargent, et souvent ils arrivent en bout de chaîne pour valider, vérifier et valider le travail des autres. Les obstétriciens, ben, ils ont des sages-femmes auxquelles ils délèguent. Les rhumatologues, ils ont des kinés. Et les psychiatres, qui auraient pourtant des psychologues, des aides-soignants et des infirmiers, même ce qu'on appelle les IPA, les infirmiers de pratique avancée, souvent renâclent à l'idée de déléguer alors qu'ils sont, se disent eux-mêmes débordés. Donc c'est à mon avis des mesures de bon sens, très simples, qui permettraient de remettre à niveau la psychiatrie française et puis peut-être de réimpulser la recherche qui est quand même pas un très bon niveau chez nous.
Alors justement là, lorsque vous avez parlé de cette organisation, de cette structure de la psychiatrie dans des institutions avec des moyens de déléguer certaines choses qui ne sont pas inhérentes au travail du psychiatre, c'est une organisation, mais aussi vous avez parlé de la recherche. Oui. Quels sont les domaines qui vous semblent faillir, qui vous semblent un peu précaires dans le savoir actuel de la psychiatrie ?
Force est de reconnaître que, à part quelques rares équipes prestigieuses, je pense à Montpellier, je pense à Paris, dans certains domaines aussi, même à Strasbourg, mais la recherche psychiatrique française est dans le peloton de queue des grandes nations. Quand on voit par exemple que des pays comme l'Italie, comme la Suisse, sont bien loin devant au niveau de la recherche. Alors quand je parle du niveau de la recherche, c'est selon les critères du CNRS ou de l'INSERM, à savoir le nombre de publications en langue anglaise dans des revues référencées. Et c'est pas très brillant. Et puis surtout, souvent la recherche voulue par le CNRS et l'INSERM, qui est la recherche d'État officielle, s'occupe beaucoup plus des rongeurs que des bipèdes. En d'autres termes, des rats que des hommes. Mmh. Et donc on a effectivement pas mal de recherches fondamentales qui fonctionnent pas mal. On a l'Institut Pasteur, on a quand même des gens remarquables. Mais la recherche clinique véritable qui pourrait être faite in situ par des équipes qui seraient artisanales, mais ce qui n'enlève rien de leur valeur, est quand même très peu promue dans notre pays. Parce que les gens le disent tout le temps, moi je suis le nez dans le guidon, j'ai les mains dans le cambouis et j'ai pas le temps de publier. Et puis c'est pas très valorisé, il faut reconnaître.
Alors une petite parenthèse en dehors de la psychiatrie, la psychanalyse, elle semble avoir, être passé un petit peu en désaveu. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est uniquement France ou est-ce que dans d'autres pays aussi, elle est un petit peu dans l'ombre actuellement?
Alors, dans tous les pays du monde, la psychanalyse a pratiquement sombré, pour pas dire disparu, fait partie de l'histoire de la psychiatrie, mais n'est pratiquement plus à l'ordre du jour. Il n'y a plus que deux pays au monde où elle reste importante, c'est la France et l'Argentine, et dans une certaine mesure l'Italie. Alors pourquoi ? Moi, je pense personnellement que la psychanalyse, c'est la plus formidable méthode de développement de soi. Mais j'en reste à l'aphorisme que m'avait dit un psychanalyste, c'est que la psychanalyse fait d'autant plus de bien qu'on va bien, au départ, et d'autant plus de mal qu'on va mal. En d'autres termes, c'est pas une méthode de soins, Freud lui-même l'a dit, Lacan l'a dit aussi, mais c'est une méthode de développement personnel, d'introspection, c'est une façon d'être un meilleur professionnel, qu'on soit juge, qu'on soit enseignant ou qu'on soit psy, c'est une façon de comprendre pourquoi on réagit de telle manière face à tel patient, mais c'est pas un soin. Et on voit, enfin, toutes les études qui ont été menées, notamment aux États-Unis, montrent qu'on est avec une totale inefficacité dans à peu près toutes les pathologies, à l'exception des troubles de la personnalité. Donc c'est vrai que la psychanalyse en tant que méthode de soins est passée à la trappe, et je pense que c'est normal qu'il le fallait.
Alors quel est le recours? Psychiatrie en difficulté, psychanalyse en berne, quel est le recours pour le malade, pour la personne souffrante? Il y a aussi plein de psychothérapies brèves que l'on propose. Il y a beaucoup de choses sur le marché, mais il y a un désarroi par rapport à la personne souffrante. Et vers qui et vers quoi se pencher?
Oui. Je vais prendre un exemple très simple. Dans les enquêtes que personnellement j'ai menées, donc c'est ce qu'on appelle la recherche artisanale, je vois que dans les services d'adolescence, à peu près la moitié des sujets, ils ont ce qu'on appelle un état de stress post-traumatique. C'est-à-dire c'est des gens qui ont été abusés, battus, incestués, malmenés par la vie depuis leur plus tendre enfance. Et dans les institutions d'adultes, je dirais que c'est à peu près un tiers de la population, notamment dans les cliniques, plus que dans les hôpitaux publics, on est plus confronté à la schizophrénie, qui est un truc quand même largement génétique, comme le trouble bipolaire. Eh bien, cet état de stress post-traumatique, qui est quand même très sévère, hein, vous voyez, j'ai été formé à l'université de Stanford dans un service des vétérans, et donc je m'occupais, c'était dans les années 80, des vétérans qui revenaient de la guerre du Vietnam. Je peux vous dire, c'était abominable. Ces gens se suicidaient, se shootaient à la cocaïne, picolaient, enfin c'était... Et on n'avait aucun outil. Et puis il y a quand même une psychologue de San Francisco qui a inventé une méthode qui s'appelle EMDR, qui est en gros dérivée de l'hypnose, qui est d'une efficacité étonnante. Et qui est d'ailleurs maintenant reconnue aussi bien par l'OMS que par l'INSERM, le CNRS, et toutes les armées au monde, notamment après la guerre du Golfe, et je pense qu'en Ukraine et en Russie, ça doit également y aller pas mal, utilisent le MDR. Le MDR, c'est Eye Movements, Desensitization Reprocessing, c'est-à-dire une désensibilisation au stress et une reprogrammation par les mouvements des yeux, qui peut être aussi d'ailleurs par un tapotement alternatif des genoux. En fait, c'est une façon de faire travailler les deux cerveaux alternativement, tout en faisant revivre de manière séquentielle l'événement effroyable.
Et est-ce que ce procédé est usité par... est-ce qu'il est connu en France?
Oui, mais je veux dire, il est validé par les autorités, par le ministère, l'HAS, le CNRS, l'INSERM. Moi-même, j'ai été formé par celui qui l'a introduit en France, qui s'appelle David Servan-Schreiber. Et moi, j'ai été d'emblée stupéfait par les résultats. Lorsque le traumatisme tombait sur une personne qui n'avait pas de problème, par exemple quelqu'un comme vous et moi qui va dans une banque et qui est braqué par des gangsters, risque de développer ça et peut se retrouver alcoolique ou suicidaire. Et qu'en général, deux ou trois séances et tout rentre dans l'ordre. Quand c'est quelqu'un qui a été abusé sexuellement dans son enfance, là c'est beaucoup plus long, c'est des psychothérapies plus longues, mais ça aide énormément. Mais ce que je veux dire, c'est que pour accéder à quelqu'un qui fait de l'EMDR, c'est la croix et la bannière,
voilà.
Ils sont totalement débordés. Et puis surtout, si vous voulez que ce soit un médecin pour être pris en charge, c'est quasiment mission impossible. Et que les psychologues, ben, ça a un coût. Et ça, c'est vraiment désastreux, parce qu'on pourrait désengorger les hôpitaux et les CMP, les consultations, par cette simple méthode qui est archi-validée de nos jours. Et pour les phobies, par exemple, ou les médicaments, parce que pour le syndrome post-traumatique, il n'y a pas de médicament. On peut traiter les conséquences comme la dépression, les états suicidaires, mais sur le processus lui-même, il n'y a rien. Dans les phobies, il n'y a pas grand-chose non plus, alors que les thérapies cognitives et comportementales ou l'hypnose, et aussi le MDR, peuvent avoir aussi des résultats remarquables. Encore une fois, pour trouver un praticien pris en charge qui fasse ce genre de méthode, c'est extrêmement compliqué.
Il s'agirait donc de pouvoir obtenir le remboursement des psychologues.
Absolument. Moi, je milite là-dessus depuis longtemps, et même des infirmiers de pratique avancée qui se voyaient, je travaille dans un CMP où j'ai une équipe, j'ai pas peur de le dire, sensationnelle, et beaucoup des infirmiers sont capables de faire de l'hypnose, sont capables de prescrire des antidépresseurs sous forme de plantes, et ça marche parfaitement bien. Et moi, je valide tout ça et je suis parfaitement d'accord avec tout ça. Mais il faudrait que ce soit quand même plus répandu, plus officiel.
Alors, dans ces questions incontournables, vous avez parlé de la prévention des troubles chez les enfants et les adolescents. Vous avez parlé de ces enfants qui sont traumatisés, qui ont eu des traumas dans leur vie, qui ont été agressés. Il y a les psychotropes prescrits à outrance, dont vous nous avez parlé. Il y a le rêve du remboursement des psychologues et la reconnaissance de la psychiatrie en tant que discipline carrefour. C'est quoi cette discipline carrefour ?
Alors c'est vrai que c'est pas facile, votre question, parce que en effet la psychiatrie est à la croisée des chemins de pas mal de spécialités, mais aussi pas mal de métiers. Elle est au carrefour, par exemple, de la justice, de l'intérieur, évidemment de la médecine, mais également de l'éducation nationale. Et il y aurait, et ça c'est Franck Bélivier qui le demande, une espèce de mission interministérielle qui permettrait justement de faire que tous ces gens se parlent, parce que vous savez que moi je suis expert après la cour d'appel de Lyon. Eh bien, c'est pas toujours facile de faire que la gendarmerie va discuter avec le tribunal, qui va discuter avec l'éducation nationale, qui va discuter avec le monde psychiatrique purement et simplement. Donc là encore, il y aurait des passerelles à trouver, il y aurait des systèmes à trouver pour que tout ça communique de manière plus fluide. Là aussi, si vous interrogez les juges, les malheureux s'arrachent les cheveux pour trouver des experts qui soient libres en moins d'un an. Parce que là aussi, il y a une carence d'experts. Puis il y a encore des choses bizarres. On manque d'experts, on manque de psychiatres. Mais si vous demandez un renouvellement et que vous avez passé l'âge de 70 ans, eh bien, c'est plus possible. C'est-à-dire un couperet qui s'arrête. Alors que souvent, à 70 ans, les gens ont acquis une certaine sagesse et ont plus de temps. Même si beaucoup de psychiatres refusent la retraite trop précoce. Eh bien, il suffirait de faire une micro-commission qui évaluerait les gens de plus de 70 ans pour voir s'ils sont cognitivement encore capables de faire leur boulot, et on désengorgerait encore les tribunaux un peu plus. Il y a des réglementations comme ça obsolètes qui date d'il y a longtemps. C'est vrai qu'il y a 20 ans, 70 ans, c'était un âge très vénérable. Maintenant, je ne dirais pas que c'est des ados, mais c'est quand même, ils sont en général en forme.
Est-ce que vous pouvez souligner peut-être des innovations prometteuses en psychiatrie ?
Oui, il y en a un certain nombre. Bon, moi, je milite beaucoup pour l'utilisation beaucoup plus importante, mais validée, mais scientifique, des compléments alimentaires et des plantes. Notamment dans mon domaine de base, qui est le sommeil, on sait que les somnifères sont des poisons, donc il faut éviter de mettre le doigt dans cet engrenage, et il faut essayer de se sevrer si on en prend, parce qu'ils ont de multiples inconvénients et qu'ils ne font pas dormir, mais qu'ils anesthésient, alors qu'on sait que certaines plantes, que la mélatonine, et même pourquoi pas le paracétamol, peuvent rendre de grands services. Tout ça, c'est pas suffisamment évalué, parce que les malheureux laboratoires qui vendent les compléments alimentaires, s'ils font une recherche, ça leur coûte des sous, et comme il n'y a pas de protection, puisque c'est des produits naturels, eh bien c'est la concurrence qui va l'utiliser. Donc ça, ce serait le boulot, à mon avis, de la recherche publique, d'évaluer ces méthodes dites de manière inappropriée, alternative ou douce. Ce n'est pas du tout le cas, c'est des méthodes scientifiques, mais qui nécessitent d'être évalué, sinon n'importe quel charlatan vous causera n'importe quel poudre de perlimpinpin. Ça peut paraître bizarre, mais pour moi, une des portes d'avenir repose justement sur ces méthodes dites alternatives. Il y a aussi des méthodes qui sont non pharmacologiques, par exemple la stimulation transcrânienne. donc il y a différentes sortes, répétées ou bien profondes. La Deep TMS, par exemple, c'est une méthode qui a été très étudiée, qui a été validée dans beaucoup de pays, notamment aux États-Unis, où c'est pas facile d'être validé par la FDA, par l'Allemagne, par l'Italie, par l'Angleterre, par la Suisse. Et bizarrement, la HAS en France a décidé de ne pas la valider et de la rembourser. Et donc, là, encore une fois, on précipite les patients dans les griffes de la pharmacologie, ce qui n'est pas une bonne idée. Parce que souvent, c'était adressé à des patients qui avaient des dépressions pas trop sévères, qui avaient une anxiété, qui avaient des TOC, qui ont des addictions comme le tabagisme, l'alcoolisme, et pour lesquels on... Moi, j'ai observé des résultats remarquables, pas constants, parce que ça n'existe pas, mais des résultats remarquables. Il y a une méthode aussi qui va peut-être vous faire bondir, mais c'est ce qu'on appelait autrefois l'électrochoc, l'électroconvulsivothérapie. Pour moi, c'est une méthode d'avenir, parce qu'il y a certains types de dépression extrêmement sévères, pour lesquels les gens se suicident généralement par la corde, et pour lesquels cette méthode marche à 85%, alors que les antidépresseurs marche à 60% en 3 à 6 semaines, l'électrochoc en 2 semaines, 2 à 3 semaines, sans oublier que une séance d'électrochoc, c'est moins dangereux que de prendre un comprimé de Prozac. Donc là, évidemment, il y a une mauvaise presse de cette technique, qui pourtant est assez étonnante, notamment chez les personnes âgées, chez les personnes fragiles, chez les personnes, chez les femmes enceintes, quand elles sont très déprimées. Là, il y aurait tout un travail à faire pour déstigmatiser cette méthode qui rend des services immenses, immenses. Et là encore, il y a des départements entiers en France où il n'y a pas moyen d'avoir accès à cette méthode. Il y a également à évaluer mieux toutes ces nouvelles thérapies, les thérapies brèves dont vous parliez, qui sont importantes, qui sont efficaces. Mais faut se méfier, parce que si c'est pas bien évalué, vous pouvez avoir des dérives sectaires, vous pouvez avoir du charlatanisme, vous pouvez avoir des gens qui sont des escrocs. Et là encore, il faut vraiment valider ces choses-là pour, encore une fois, désengorger la chimiothérapie et les consultations classiques.
Alors, cette équipe que vous avez réunie autour de vous pour travailler ce livre, dont le titre est « Pour une nouvelle psychiatrie proposition », comment avez-vous effectué ce casting brillant ? Alors, évidemment, il y a vous, docteur Patrick Lemoine, il y a Boris Cyrulnik, il y a François Ansermet qui nous a expliqué son livre « L'origine à venir » dernièrement sur cette antenne. Comment avez-vous pu réunir ces gens-là et par rapport à quoi ?
Bah, vous savez, on a essayé de regarder une carte de France psychiatrique, voir qui était le plus connu, le plus respecté, qui publiait peut-être pas le plus, mais le mieux. Et puis ensuite, Boris et moi avons essayé de prendre notre carnet d'adresses et de jouer les voyageurs de commerce et de les démarcher. C'est vrai qu'on n'a eu aucun refus, parce que tout le monde est bien conscient dans notre pays qu'il faut faire quelque chose, qu'il faut faire des propositions, que ça peut pas continuer comme ça, que on peut pas faire que les gens... Vous voyez par exemple le sommeil, où j'ai demandé effectivement à un des meilleurs spécialistes en psychiatrie du sommeil qui est à Bordeaux... Savez-vous combien d'heures sont consacrées à l'enseignement du sommeil pendant les 8 ans d'études de médecine générale et les 11 ans de spécialité ? Savez-vous combien d'heures y sont consacrées ?
Non.
Zéro. À part les apnées du sommeil qui sont un ou deux cours en pneumo. Autrement, donc ce qui fait un tiers de notre vie, ce qui conditionne notre longévité, notre immunité, notre mémoire et j'en passe, n'est pas enseigné. Et donc, vous voyez, moi, quand j'ai fait mes premiers remplacements de médecine générale, j'avais jamais entendu parler des otites, des conjonctivites, du rhume, alors que je connaissais des maladies rarissimes. Donc là aussi, il y a une organisation à faire. Les médecins qui s'installent de nos jours ne savent rien à Saint-Denis. Et de ce fait, ils sont dans la logique de ce que moi j'appelle la civilisation presse-pilule, à savoir, docteur, je dors pas, ah ben je vais vous donner un somnifère. Je suis anxieux, ah je vais vous donner un anxiolytique. Alors que ça marche pas. Au contraire, on rajoute une addiction à un trouble psychiatrique. Donc là, au niveau de l'enseignement, ça ne fonctionne pas. Et le gros ennui, c'est que quand on voit que quelque chose ne marche pas dans l'enseignement, on réunit qui ? Les enseignants. Alors que c'est eux qui dysfonctionnent. et donc on tourne en rond en permanence.
Mais le sommeil, est-ce que ce n'est pas un instinct physiologique naturel ? Est-ce que l'enseignement par rapport au sommeil, ce serait pour détendre des mauvais comportements, c'est ça ?
Pas que. Vous avez raison en partie, mais pas totalement. Par exemple, quand vous faites de la pneumologie, ben vous commencez par enseigner la respiration, à quoi ça sert de respirer, où va l'oxygène, comment il irrigue tous nos organes. Si vous parlez de l'estomac, ben vous allez avoir un cours d'anatomie sur l'estomac, et puis à quoi sert l'estomac, etc., etc. Et une fois qu'on a fini, donc ça s'appelle la physiologie, eh bien on s'occupe à la pathologie. Et en effet, quand on aura fini de parler de l'anatomie, de la physiologie estomac, on va parler d'ulcère à l'estomac. Mais le sommeil, c'est pareil. Il faut déjà enseigner aux futurs médecins à quoi sert de dormir. Et je peux vous dire que les fonctions du sommeil sont de plus en plus connues, de plus en plus, à quoi ça sert de rêver, à quoi ça sert de dormir. Et on sait maintenant que, je vous disais, la longévité en bonne santé est conditionnée par la qualité et la durée du sommeil. Qu'on ne savait pas il y a ne serait-ce que 10 ans. On sait que les gens qui dorment pas assez ont des troubles de la mémoire qui peut les mener éventuellement jusqu'à l'Alzheimer. On sait également que c'est au cours du sommeil qu'on fait une mise à jour de notre logiciel immunitaire qui nous permet donc de lutter contre les nouveaux virus. Vous voyez de quoi je parle dans les temps qui courent. De même contre les nouvelles cellules cancéreuses. On sait qu'au cours du sommeil, on va sécréter des produits qui évitent de faire monter le cholestérol et les triglycérides, qui évitera le diabète, la prise de poids. Il y a énormément de pathologies en fait, qui reposent sur un dysfonctionnement du sommeil. Donc ça, c'est vraiment la physiologie et la physiopathologie. Et ensuite, quelles sont les méthodes qui permettent de dormir, puisqu'on sait aujourd'hui que les somnifères sont un abus de langage, puisqu'ils ne font pas dormir, mais ils provoquent une anesthésie légère. En fait, ce sont des anesthésiques. C'est exactement un anesthésique. Quand vous êtes sur le billard avec un bistouri dans le ventre, c'est bien de ne pas se réveiller. Eh bien, les anesthésiques, ce n'est pas des molécules pro-sommeil, c'est des molécules anti-éveil qui entraînent non seulement des addictions, mais qui ont une toxicité propre au long cours. Vous voyez, moi, je suis donc spécialiste du sommeil. Ça doit faire 20 ou 25 ans que je n'ai jamais prescrit un somnifère. Je pense que mes patients ne s'en plaignent pas et arrivent à dormir correctement. Et donc, je leur prescris l'hygiène des rythmes, je leur prescris des thérapies cognitives et comportementales, de l'hypnose, de la sophrologie, du yoga, de l'auto-hypnose, et puis de la mélatonine, la libération prolongée, et puis certains types de plantes qui ont validé leur efficacité. Et là, je sais que je suis non seulement efficace scientifiquement, mais que je ne suis pas toxique. Et puis ensuite, j'ai essayé de développer toute une recherche sur les meilleures méthodes de sevrage des benzodiazépines, parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus simple qu'on ne pense. C'est beaucoup plus facile.
Alors, dans ce livre, Françoise Hermé parle du retour à la clinique et à la psychanalyse, et vous aussi, dans votre chapitre, vous prenez le retour à la clinique et à la thérapeutique.
Alors, oui, Michel Lejoyeux aussi insiste beaucoup sur le retour du signe.
Le retour à la clinique, c'est quoi ?
Eh bien, c'est. Alors, je dois dire, bon, j'ai été un peu sévère avec la psychiatrie française, mais quand même, je pense que la psychiatrie française est plutôt excellente en matière de sémiologie, de symptomatologie. Et vous voyez, quand j'enseignais à Stanford, autant j'étais bluffé par le niveau de la prise en charge des soins, autant j'étais pas du tout impressionné par leur approche clinique. C'est vrai que la vieille clinique à la française, qui remonte à Henriet, à ses pères fondateurs de la psychiatrie, avait une grande qualité, mais les Français n'ont pas su la mettre en musique dans les grandes classifications internationales, et on a vu disparaître des concepts essentiels comme l'hystérie, comme la paranoïa sensitive, des trucs qui existent complètement, mais qui n'ont pas su faire leur place dans les grandes classifications. Je pense que si on refondait aussi cette approche clinique avec un retour aux fondamentaux, parce que je suis désolé, mais un homme hystérique, une femme hystérique, ça existe. Et on voit encore ces grandes conversions où les gens deviennent aveugles, ou n'arrivent plus à parler, ou se paralysent pour des raisons purement psychologiques, notamment dans nos populations de migrants. De même que ce qu'on appelait autrefois la paralysie, paranoïa des vieilles filles, c'est un truc qui existe, qui est complètement oublié et inconnu des grandes classifications. Donc le simple fait de réapprendre la vraie clinique avec ce qu'on appelait autrefois l'empathie, c'est-à-dire la capacité à se mettre à la place du patient, comme faisaient les phénoménologistes, notamment allemands, comme Binswanger, ça me paraîtrait une chose intéressante et importante, parce que pour les patients, déjà, se sentir écouté, compris, avec un psy qui se met à la place, c'est déjà une bonne partie du soin.
Alors, vous avez donc bien expliqué, vous m'avez expliqué le retour à la clinique, mais que prenait François Hermet et que vous aussi vous prenez, mais lui, il conseille aussi le retour à la psychanalyse. Et vous m'avez bien expliqué tout à l'heure que la psychanalyse améliorait les personnes qui allaient bien, qui étaient, c'était une sorte de science humaine, et aggravait ceux qui allaient mal. Et puis ensuite, oui. la thérapeutique que vous prenez, c'est quoi ? Est-ce que c'est une rééducation, puisque vous n'aimez pas les médicaments ?
Certes, mais j'aime pas non plus la psychanalyse en tant que traitement. Je suis complètement d'accord avec François Hermet dans le sens qu'il dit que la psychanalyse, qui est au fond une façon de se connaître soi-même, c'est rien d'autre qu'une nouvelle maïotique socratique réactualisée par Sigmund Freud. Donc de ce côté-là, la psychanalyse en termes de méthode d'exploration du psychisme de soi et de l'autre, c'est formidable. Et donc qu'il y ait une des bases psychanalytiques dans l'enseignement qui permettent aux psy, qu'ils soient psychologues ou psychiatres ou infirmiers, de se mettre à la place et donc d'arriver à son diagnostic. Moi, je suis pas psychanalyste pratiquant, mais je peux vous dire que l'outil psychanalytique me sert énormément pour arriver à comprendre mes patients et pour arriver à des diagnostics corrects. Donc je suis complètement d'accord avec François Ancer, mais en réalité, c'est quand on veut se servir la psychanalyse comme d'un outil de soin chez des gens vraiment malades, que là, ça fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus, comme je vous disais, ni dans l'hystérie, ni dans la névrose, ni dans la dépression, encore moins dans les psychoses. La psychanalyse n'a rien pu démontrer. Seulement dans les troubles de la personnalité, ce qu'on appelle les états limites, ça fonctionne pour une raison très simple d'ailleurs, c'est que un état limite, c'est quelqu'un qui est impulsif et abandonnique, qui a toujours peur d'être abandonné. C'est clair que pendant 15 ans, vous êtes suivi par quelqu'un pendant 3 fois par semaine, si vous êtes abandonnique, ça a forcément un effet. C'est ce que faisaient d'ailleurs certains rabbins, certains directeurs de conscience jusqu'au 19e siècle, et qui fonctionnaient parfaitement bien. Donc, de ce côté-là, la psychanalyse, comme je vous l'explique, c'est une bonne méthode d'investigation, c'est un outil clinique précieux, mais pas un outil thérapeutique.
Et la thérapeutique, alors c'est quoi ?
Alors la thérapeutique, il y a toutes ces méthodes donc non pharmacologiques. Je parlais de la stimulation magnétique transcrânienne. Je parle beaucoup de l'hygiène des rythmes. Savez-vous, par exemple, que l'explosion des dépressions au moment du confinement est essentiellement liée au fait que les personnes télétravaillant pouvaient le faire à l'heure qu'elles voulaient et donc pouvaient télétravailler à 4h du matin ou au contraire à 23h et puis elles pouvaient aussi Netflixer pour faire ses néologies, c'est-à-dire regarder des séries jusqu'à minuit, 1h, 2h du matin. Si le ministère avait dit télétravaillez strictement aux heures de bureau et levez-vous à la même heure et couchez-vous à la même heure que d'habitude, on aurait évité ce qu'on appelle le retard de phase, c'est-à-dire des personnes qui s'endorment trop tard et surtout qui se réveillent trop tard. Et on aurait évité cette explosion des dépressions. Pour moi, le premier médicament dans la dépression, c'est se lever tôt, 1h30, voire 3h plus tôt qu'on a pris malheureusement l'habitude au début de la dépression. Quelqu'un, par exemple, qui est réglé, je sais pas moi, 23h, 7h, qui va se mettre, pour une raison X, comme le confinement, à se coucher à 1h du matin et à se lever à 9h, est dans une situation expérimentale de déclenchement de la dépression. Et donc, pour moi, le médicament, c'est déjà de réveiller cette personne à 6h30, 7h. Et dans les établissements, les cliniques et les hôpitaux dont je me suis occupé, mon premier boulot, c'était déjà de lever les gens tôt et puis de les mettre sur un rameur, sur un vélo d'appartement, pour qu'ils refassent partir la machine à une heure physiologique pour eux. C'est des trucs tout bêtes, ça. Mais l'hygiène des rythmes, la chronobiologie, la chronothérapie sont essentiel et également pratiquement pas enseigné dans notre pays. Il y a donc toutes les thérapies cognitives et comportementales, donc qui vont depuis la méditation jusqu'à l'hypnose, en passant par la sophrologie, et puis les thérapies brèves. C'est très important et ça nécessiterait plus de formation et plus d'évaluation.
Docteur Patrick Lemoine, finir par une question. Quelle est la psychiatrie dont vous rêvez, en quelques mots?
Une psychiatrie où on prescrirait un minimum, on aurait beaucoup de temps parce que les psychiatres feraient de la psychiatrie et où ça suffit. En fait,
c'est déjà mieux. C'est une sorte, finalement, de rééducation à notre pulsion normale de vivre, réapprendre ce que vous avez dit, des rythmes oui. Sensés.
Absolument. Évidemment, étant spécialiste du sommeil, je suis forcément chronobiologiste. Et si vous saviez le nombre de troubles qui sont liés à des changements d'habitude, vous voyez, très rapidement, je me rappelle un médecin qui était un grand sportif, et tous les matins, il se levait à 5 heures, il faisait 1h30 de vélo, vraiment de vélo, et à 7 heures, après sa douche, il consultait. Et il était en pleine forme. Il a fait une chute en vélo. Et il est resté allongé pendant 2 mois. Eh bien, 3 mois plus tard, il était dans mon service, suicidaire et alcoolique. Il a suffi que j'ouvre la salle de sport, que je le tire du lit à 5h30, je n'ai pas donné de médicaments, et au bout de 3 ou 4 semaines, il était de retour à son cabinet. Il a rechuté 3 ans plus tard, parce qu'il a eu la grippe, et qu'il est resté au lit, qu'il ne s'est pas levé. Il a fallu recommencer, on a rouvert la salle de sport à la clinique, et c'est reparti. Alors maintenant, il a compris que même s'il a un problème, il faut qu'il se lève à 5h30 et qu'il s'active. C'est tout bête, mais se poser la simple question à quelle heure je me levais quand tout allait bien et se recommencer à se lever à la même heure si on sent qu'on déprime, parce que plus on déprime, plus il faut se lever tôt, c'est des principes de base que très peu de médecins connaissent et dans le public encore moins. Pourtant, c'est essentiel. Et je vous dis pas les économies qu'on ferait à la sécurité sociale en termes d'hospitalisation, en termes de médicaments et également en termes de dégâts. Puisque n'oubliez pas que les effets secondaires des médicaments coûtent des milliards à la sécurité sociale par an.
Docteur Patrick Lemoine, je vous remercie beaucoup de nous avoir présenté votre dernier livre, Une nouvelle psychiatrie proposition, que vous avez fait avec Boris Cyrulnik et qui est paru aux éditions Odile Jacob. C'est absolument passionnant, je vous remercie et au plaisir de vous écouter une autre fois. Merci.
C'est moi qui vous remercie, à bientôt.
Au revoir.
Strasbourg pilote, arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange.